Chers amis, bonjour, bienvenue dans Planche, Cases et Bulles, où avec Christol Seyec, nous allons vous faire part de l'actualité de la bande dessinée, en commençant par d'abord deux autofictions, ou peut-être deux fictions, sur des auteurs de bande dessinée contemporains, de bande dessinée contemporaine, mais ce sont des auteurs contemporains de bande dessinée contemporaine, et en enchaînant ensuite avec deux bandes dessinées plus solides, à mon sens, en tout cas pour l'une d'entre elles, qui empruntent évidemment à la littérature de genre, c'est-à-dire le western et le polar, et d'ailleurs un polar lui aussi situé aux États-Unis. Bonjour Christol.
Bonjour Richard.
Alors, donc, tu veux
Alors,
nous
on commence
parler...
par Zep.
On commence par Zep, exactement, donc, dont on a découvert il y a maintenant plus de 10 ans qu'il était en fait, indépendamment des crétineries de son personnage dont j'ai déjà oublié le nom, un véritable auteur de bande dessinée pour grandes personnes, non pas qu'il s'agisse de dessiner des petites femmes coquines, mais au contraire de vraies histoires avec des scénarios très travaillés, en prise avec l'actualité et avec un dessin réaliste tout à fait aimable, avec une véritable capacité à évoquer la nature.
Eh bien, je dois avouer que je n'avais jusqu'ici jamais lu Zep. C'est-à-dire que je n'avais jamais ouvert un album de Titeuf, m'arrêtant sans doute à la couverture. Je trouvais ce petit personnage assez dramatique. Il ne me tirait pas du tout. Et quand je savais que la plupart des sketchs tournaient autour, si je peux le dire, du Zizi, parce que souvent c'est ainsi qu'on parle de ces albums-là, je n'avais jamais lu. Et donc, je me suis dit, tiens, tournons la page et essayons de donner une chance à Zep avec son dernier album, Tourner la page. Et effectivement, c'était une très bonne surprise, sans doute parce que je m'attendais à quelque chose qui m'œuvrerait, mais en vérité, c'est un album jubilatoire qui va nous montrer, qui va tourner en dérision le milieu littéraire parisien. Il faut imaginer un romancier de la cinquantaine, Lambert Deville, qui a obtenu il y a une quinzaine d'années le prix Femina, pour un roman qui commence à être oublié depuis le temps, mais qui ne parvient vraiment pas à retrouver le succès. Et donc là, l'album commence par une séance de dédicaces où personne ne le connaît, puis il se rend chez son éditrice, laquelle refuse même d'éditer son dernier roman parce que ce serait un navet. Il revient chez lui, sa jeune compagne, beaucoup plus jeune que lui, le quitte, ne supporte plus cet auteur déprimé. Et donc, il suit les conseils de son éditrice, il part en Grèce, dans les Cyclades, puisque là-bas, il a un voilier, et il va naviguer d'île en île dans les Cyclades. Et un jour, on n'a plus de nouvelles de lui. Et donc, à Paris, on en parle un petit peu quand même de ce romancier qui a disparu en mer, ça fait l'une des journaux. Est-il mort? Oui, il y a une enquête de police, on trouve le bateau avec des traces de sang. Sans doute est-il mort en mer, tombé dans l'eau. Et c'est là que l'aspect médiatique s'emballe, puisqu'on redécouvre cet auteur qui redevient en une des ventes, tout simplement parce qu'il est mort. On reparle de lui. Et même son éditrice annonce la bonne nouvelle. Elle dissimulait la sortie du nouveau chef-d'œuvre de Lambert Deville, celui-ci même qu'elle ne voulait pas éditer, pour en faire sans doute un best-seller et enrichir la maison d'édition. Et là, il fait la une des émissions à la radio, à la télévision. C'est une grande perte pour la pensée politique, littéraire, romanesque, philosophique française. Trouvera-t-on de nouveau un nouvel auteur aussi expérimenté? Les jeunes doivent le copier. C'était un message pour nous tous. Bon, on imagine les manchettes des journaux. Si ce n'est que notre brave Lambert Deville, il n'est pas mort du tout. En fin de compte, par un artifice que je n'explique pas, au cours d'une tempête, il récupère un petit canot, il arrive dans une petite île, des Cyclades, éloigné de toutes, et il est bien content de vivre replié dans une petite case qu'il paye en liquide. Et un jour, il va au bar, il regarde la télévision, et là, il apprend qu'en fin de compte, il est mort, il a du succès, et même son roman, Le Navet, devenu un best-seller, un chef-d'œuvre, va sans doute obtenir le prix Goncourt. Et là, elle se dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste à me marrer sur mon île? Ou bien, est-ce que je retourne dans le milieu parisien pour dire, oh, oh, c'est moi, je ne suis pas mort? À ce moment-là du récit, on part sur autre chose, une histoire un petit peu policière avec des trafiquants turcs. Ça part un peu sur autre chose, mais C'est pas raté, la deuxième partie d'album. Et on a quand même, pour ceux qui ignorent ce monde-là, c'est mon cas, l'aspect amusant de découvrir tout ce petit milieu parisien fait de mensonges, de bassesse. Même le héros principal, quelqu'un quand même d'une grande bassesse, en fin de compte, il vit ne que pour lui-même, il s'admire, quand il n'est plus admiré, il tombe dans la dépression. Bon, c'est un album que je conseille quand même pour découvrir Zep. Alors pourquoi s'appelle-t-il Zep? Eh bien, il s'appelle Philippe Chapuis, cet auteur-là. Il s'appelle Zep parce que quand il avait 12 ans, il s'est dit, plus tard, je ferai des bandes dessinées et je m'appelle Zep en hommage au groupe Led Zeppelin. Et il faut savoir que Zep est encore musicien de ce groupe de rock aujourd'hui. Mais bon, le succès est venu par la bande dessinée et c'est notamment par le succès de Titeuf. J'ai fait les comptes, il a créé Titeuf il y a 34 ans. C'est l'aura, je n'y pas. Mais il a vendu 21 millions d'exemplaires de Titeuf. Je ne dirai rien là-dessus parce que, comme je le dis, je n'ai pas lu Titeuf. Je rappellerai seulement que ça avait entraîné le courroux de Bolsonaro lors d'une élection présidentielle au Brésil en 2018, lorsqu'il avait découvert pendant la campagne qu'on distribuait aux enfants brésiliens un kit pédagogique contre l'homophobie avec dedans un ouvrage de Zep, Le Zizi sexuel. Oublions tout ça. Oublions Titeuf. Effectivement, depuis une dizaine d'années, Zep écrit des albums pour adultes avec ses propres réflexions. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais c'est quand même assez poétique et c'est intéressant. Et je me suis penché un petit peu sur ce personnage-là, pardon, cet artiste-là, Zep, pour découvrir qu'en fin de compte, entre chaque album de Titeuf, il faisait une retraite dans un monastère pour se ressourcer. J'ai découvert aussi qu'il aimait beaucoup la vie monastique. Il a écrit un album que, heureusement, je n'ai pas lu et qui a obtenu le prix européen de la bande dessinée chrétienne en 2017. Donc, soyons ouverts, découvrons cet album, le message, ça vaut le coup. D'autant que le dessin est très agréable. C'est un dessin, c'est la première fois en fin de compte que Zlep se lance dans la couleur directe. Et pour ce faire, pour dessiner la mer, c'est la première fois qu'il dessinait la mer, effectivement, c'est très bien de dessiner le mouvement des vagues, eh bien, il a passé l'été dernier sur deux petites îles grecques, dans les Cyclades, si petites que j'ignorais même leur existence, Milos et Kimolos. Kimolos, c'est merveilleux, on peut taper sur Google Milos Kimolos et on l'imagine Zep tout seul dans sa petite case, à s'amuser à écrire le scénario, à s'exercer au dessin des vagues et des petites maisons blanches des Cyclades. Il a passé un bon moment et honnêtement, nous aussi, on passe un bon moment à lire cet album-là aujourd'hui, aux éditions Rue de Sèvres. Tu l'as lu, Richard, ou?
Non, je ne l'ai pas lu, tourner la page, mais effectivement, je conseille un bruit étrange et beau auquel tu faisais allusion, là, sur l'histoire d'un homme qui rentre dans un couvent de Chartreux, et je cherche en vain un très bon album qui est l'un de ses tout premiers dans son style réaliste, qui était assez écologique et qui décrivait une fin du monde avec une espèce de comment dire de d'élimination voilà the end qui était tout à fait surprenant et vraiment intéressant à la fois par le style et par les thématiques.
Et tu as déjà lu une planche de Titeuf?
Ah non non Dieu du ciel non j'ai laissé tomber Titeuf. La seule chose qui est amusante dans Titeuf, c'est que Dupuis trouvait ça tellement grossier qu'il a refusé et que je pense que Dupuis après 21 millions d'albums vendus par la concurrence doit évidemment se mordre les doigts. Et que Titeuf et que Zep, devenu millionnaire au point de s'acheter une demeure somptueuse en Suisse, doit lui-même trouver que le monde est bien fait, puisque voilà, il a échappé à Dupuis et il est tombé dans la fortune et en même temps que la vulgarité. On ne peut pas tout avoir. Mais il reste deux ou trois planches des débuts de Zep chez Dupuis. Je ne sais pas si elles ont été recueillies en album. Moi, je vais vous parler d'un autre auteur de bande dessinée, Pierre Morel, qui a écrit un album publié justement aux éditions Dupuis qui s'appelle La fin de la fiction. Et dans lequel Pierre Morel met en scène une espèce de double, un auteur de bande dessinée un peu raté, qui dessine un peu mal. Et là, c'est très réussi. Effectivement, l'album est un peu raté, il est un peu mal dessiné. Donc voilà, c'est un bel exercice d'autofiction. Il y a vraiment une espèce d'abnégation dans le fait de mettre en scène quelqu'un qui dessine un peu mal pour raconter une histoire un peu bancal, mais l'album a un certain mérite. Alors, c'est une collection qui s'appelle Les Ondes Marcinelles, une espèce de collection d'art et d'essai, si j'ose dire, des éditions Dupuis, bon, et qui ont été un peu mal inspirées, à franchement parler, je trouve, de publier cet album-là, puisque donc, ce que nous raconte Pierre Morel, donc c'est la vie d'un auteur de bande dessinée qui ne connaît pas un immense succès, qui vivote en partie avec des petits boulots et qui notamment accepte d'illustrer l'album d'un youtubeur qui fait fortune sur YouTube en montrant des vidéos où il ouvre un paquet de céréales et il accompagne chaque paquet de céréales de réflexions profondes sur la qualité des céréales, son rapport aux céréales et la manière dont les céréales peuvent envahir la vie. Et l'album tourne comme ça avec une certaine dérision, non pas autour du monde des célèbres auteurs germano-pratins édités chez Grasset, mais au contraire des auteurs de bande dessinée qui se retrouvent au Festival d'Angoulême à l'époque où le Festival d'Angoulême existait encore et en attendant qu'il revienne. Et l'album, donc, à franchement parler, ne mérite pas qu'on l'achète, mais il a, disons, un charme un peu foutraque, un dessin un peu à la Crumb, une manière d'évoquer de toutes les problématiques de la bande dessinée, notamment celui de la célébrité, du regard des autres. Voilà. C'est un album qui est assez long, c'est un album qui est verbeux, soyons francs. C'est un album, voilà. Donc on n'est vraiment pas obligé de lire. Pourquoi est-ce que j'en parle? Eh bien, tout simplement parce que de tous les albums que j'ai demandé, feuilleté, lu, reçu, acheté, eh bien, il m'en manquait un pour réussir à avoir deux albums. Voilà, on en est réduit à voilà la triste vie des critiques de bande dessinée qui sont obligés de se taper un nombre invraisemblable d'albums médiocres juste pour pouvoir vous en parler, chers auditeurs. C'est le moment de vous dire que, bien sûr, nous sommes absolument ravis de parler avec vous de tout ça et qu'en même temps, il est absolument nécessaire que vous puissiez aider Radio Courtoisie, soutenir Radio Courtoisie et faire en sorte que cette aventure continue et que nous puissions ensemble, comment dire, faire en sorte d'avoir une radio qui bouge et une radio qui vit et une radio qui existe. Voilà, c'était le message de milieu d'émission. On va passer maintenant à un autre album qui s'appelle Comanche Trail et là qui va nous fait basculer du côté des bandes dessinées de genre avec voilà, le western qui, on le sait, évidemment fait partie de cet imaginaire européen qui projette sur les États-Unis un monde de fantasmes incroyables et évidemment western qui n'a cessé au fil des décennies de se réinventer lui-même en passant par la décennie désabusée des années 70. Et voilà, tous les 20 ans, on est désabusé. Est-ce que Comanche Trail apparaît et appartient à la catégorie des westerns désabusés ou au contraire, est-ce qu'on est revenu pardon, à une forme baroque du western?
Question de haut niveau.
Voilà,
Pas
vous avez
facile
cinq
à
minutes pour y
répondre en tout
répondre. Voilà, vous êtes sous surveillance, n'hésitez, Crystal Sec, ne l'oubliez pas.
C'est vrai que c'est amusant, mais le western dans le monde du cinéma a séduit les cinéastes américains et les cinéastes italiens aussi, mais pas le cinéma français. Alors que dans bande dessinée franco-belge, eh bien, c'est un terrain d'aventure qui a donné lieu à plein de séries, d'albums, effectivement. On ne l'hésitera même pas, mais il faut savoir que Christian Rossi, depuis 5 ans, il est passionné par la vie des Amérindiens, des Indiens. Alors, pourquoi, accrochons-nous, il révèle qu'il s'est laissé séduire par la religion des Apaches, qui, comme il l'explique, vénérait un dieu unique, et ce contact avec la nature, avec le soleil, avec les nuages, les prairies, ce monde quand même païen, le passionne, l'attire, et il a décidé d'en faire toute une série de 3 albums. 3 albums parce que il y a 2 ans était sorti déjà Golden West, qui racontait le récit d'un jeune Apache qui s'appelait Juan. Et ce nouvel album intitulé Comanche Trail, c'est la suite. Alors, pour répondre à ta question, Richard, en fin de compte, c'est pas un album qui va dénigrer les Indiens ni les encenser. C'est comme si il voulait montrer les Indiens tels qu'ils étaient, avec leur propre culture, et il bâtit son récit à l'époque où les Indiens, entre eux, se faisaient la guerre, puisque non seulement il y avait plusieurs ethnies que l'on connaît, les Apaches, les Comanches, mais au sein même des Apaches, il y avait plusieurs groupes, comme les Coyoteros et l'autre, je ne sais plus comment ils s'appellent, dans cette bande dessinée. Et donc là, ce jeune Apache, Wuhan, rencontre un autre groupe d'Apaches qui fuit parce qu'il est poursuivi par des Comanches. Le chef des Comanches, il est un petit peu connu, il s'appelle Quanah Parker, alors moins que Geronimo, mais c'était quand même un grand chef indien qui avait pour particularité d'être l'enfant d'un Indien et d'une Blanche. C'est effectivement la Blanche européenne la plus célèbre qui était capturée par des Indiens. Sa famille a été massacrée lors de la capture et pourtant elle a épousé un chef indien, elle lui a fait 3 enfants et plus tard, lorsqu'elle a été libérée par les soldats américains, elle a refusé de retourner chez les Yankees, elle a plusieurs fois réussi à s'évader et c'est de son récit qu'est tourné le film La prisonnière du désert de John Ford. Effectivement, on voit pas cette héroïne, la mère du chef indien Quanah Parker, directement on voit Quanah Parker qui poursuit ce petit groupe Apache pour l'éradiquer, puisque ce petit groupe a volé son épouse, qui s'appelait Pétale. Alors, je ne rentre pas dans le pourquoi du comment de l'histoire de ces Indiens. En fin de compte, c'est avant tout, cette bande dessinée, une merveille pour les yeux. Christian Rossi, vraiment, c'est un dessinateur de très grande qualité, et on peut parcourir les planches les unes après les autres, sans même s'intéresser au récit. Il y a certaines bandes dessinées comme ça, celle-ci en fait partie. Je dois avouer que le scénario quand même tient la route. C'est la première fois que Christian Rossi bâtit un scénario après Golden West. Auparavant, il travaillait avec Serge Le Tendre pour cette série sur Tiresas et d'autres. Et celle-ci est aux éditions Casterman. Donc, c'est le tome 2. Il y aura bientôt un tome 3 qui racontera comment son héros Apache, Wuhan, va survivre dans le monde blanc. Et pour ceux qui adorent le dessin, l'éditeur a trouvé un artifice de vente que parfois ils font pour les albums de qualité. Il y aura un tirage de luxe en septembre de 145 planches avec cet album en version Lavis. Sans doute pour ceux qui ont adoré le dessin, le voir sous une autre peinture. Je ne sais pas si certains l'achèteront, ou alors il faut attendre septembre si vous préférez le lavis à l'aquarelle. Bon, ça, c'est des questions de goût. Mais je dois avouer que je suis toujours séduit par les histoires des Apaches, des Indiens, puisqu'il y a vraiment une attache à leur aspect identitaire. Mais il y a beaucoup de sorties en ce moment dans ce monde-là. Et on finit peut-être par s'en lasser un petit peu. C'est mon opinion, mais en tout cas, pour ceux qui adorent le monde des Apaches, achetez-le. C'est vraiment un bel album.
Voilà, un bel album, et effectivement, Christian Rossi a un vrai talent. Ça fait penser à Giraud, c'est-à-dire le dessinateur de Blueberry, mais aussi à plusieurs des auteurs qui sont publiés chez Daniel Magen. Voilà, il y a un métier qui évoque invinciblement le 19e et les beaux-arts de l'époque, avec des académies impeccables, des perspectives parfaites, un réalisme de bon aloi, et malgré tout, voilà, une science de la couleur très, très agréable. Moi, je vous entraîne totalement ailleurs. Je vous entraîne aux États-Unis quand même, mais dans un polar bien poisseux, comme on dit aujourd'hui, de Attila Futaki et de Jérémy Guez. Attila Futaki étant un dessinateur hongrois. Voilà, on a l'impression qu'il a un prénom de conquérant mongol et un nom de famille japonais. Pas du tout, il était hongrois. Et Attila Futaki donc, compose une histoire donc, sur un scénario de Jérémy Guez, qui est comment dire, un auteur de polar et un cinéaste français. C'est à la fois tout ce qu'on aime et tout ce qu'on déteste. C'est-à-dire, le dessin est éblouissant d'efficacité graphique, les couleurs sont à la fois justes et oniriques, on apprécie le découpage extrêmement nerveux, il y a des fonds de page entièrement noirs qui donnent une tonalité encore plus noire d'ailleurs à l'album, il y a une capacité à multiplier les gros plans, il y a une véritable maestria dans le découpage qui permet de faire traîner en longueur d'une manière peut-être un peu inutile cet album, voilà, qui est assez épais, d'ailleurs, bah, comme celui de Christian Rossi, hein, qui fait plus de 100 pages, lui aussi, on arrive à la valeur de quasiment trois albums classiques en 48 pages d'ocaré-collé. Et on reste malgré tout dans une certaine indécision et dans une certaine, comment dire, déception, parce que voilà, ces personnages de flics un peu paumés qui enchaînent les enquêtes, croisent le chemin d'un tueur à gages. Alors je ne divulgâche rien, le tueur à gages, on le croise à la première planche, et le fait qu'il croise le flic, ça doit être dans... même dans le premier quart de l'album, je ne vous raconte pas le reste, avec des histoires de filles enlevées, bien sûr de tueurs fous et de prévarication chez les riches, tout ça se passant à la Nouvelle-Orléans. On a l'impression, en fait, de piétiner dans l'ensemble du néo-polar américain, voilà, avec des personnages qui sont tous un peu fragiles et fracturés, sans qu'il y ait véritablement, à aucun moment donné, le désir de rentrer en sympathie avec un d'entre eux. Alors, c'est un choix courageux. On n'est pas effectivement obligé de s'identifier à un héros ou à l'anti-héros. Là, il n'y en a pas un seul pour sauver l'autre. Là, mais évidemment, les deux flics sont moins insupportables que les méchants, qui, eux, sont... vont du doucement répugnant au franchement dégueu. Le fait d'être comme ça, plongé dans cette noirceur, il y a un moment donné, on se dit, mais mon Dieu, pourquoi diable imaginer des histoires aussi sordides? Pourquoi surtout remettre en permanence ses pas dans des pistes déjà bien piétinées par le cinéma, par la bande dessinée, par les comics, par le roman, en fait voilà, c'est un style. On a l'impression de se retrouver aux États-Unis et à la Nouvelle-Orléans. Donc, dans tous ces films qui se passent à la Nouvelle-Orléans, on vous explique que les bayous étouffent les gens et que la chaleur, ça en fout. Merci, c'est super sympa. Ou avec un côté presque aussi polar nordique, où tout le monde est taré, avec généralement deux ou trois familles dysfonctionnelles et de longs passages où des flics vêtus d'imperméables sont en train de pleurer sous la pluie sur leurs amours perdus ou leur bouteille de scotch qui vient de se fracasser dans le caniveau. Donc, c'est le moment où, en fait, on se dit qu'il y a une... une maestria graphique incontestable de la part de cet auteur hongrois. Et en plus, on le regrette d'autant plus que c'est son dernier album et un album posthume, puisqu'il est mort avant de l'avoir terminé. D'ailleurs, bravo à l'équipe de Dupuis d'avoir réussi à mener la chose à bien. Et on a l'impression comme ça d'une virtuosité qui est mise au service d'une histoire qui est un cran en dessous de ce que ce personnage aurait été capable de faire. Et on a l'impression que Guèze sacrifie... à un métier qu'il maîtrise admirablement, celui d'auteur de polar contemporain, mais sans véritablement réussir à nous emmener ailleurs et à faire une œuvre réellement originale.
Oui, alors je l'ai lu également, et il y a un mot qu'utilisent les jeunes et qui correspond un peu à l'esprit, c'est un peu glauque. C'est-à-dire, on est désabusé du début à la fin. On passe pas un mauvais moment, mais tu as entièrement raison, c'est pas un album qu'on a envie d'offrir.
Voilà, et d'ailleurs, je ça ferait partie des albums qui seront au purgatoire, voilà, chez moi. Et, ben, écoutez, chers amis, voilà, nous récapitulons, un bon album de Zep, et surtout, n'hésitez pas à aller regarder les autres albums de Zep, donc celui qui raconte la manière dont un homme a envie de rentrer à la Chartreuse, et celui, The End, où la nature décide d'éliminer les humains, avec un côté apocalyptique, et donc maîtrisé, et là, avec une histoire qui est bien solide du début à la dernière plage. Surtout, n'achetez pas la fin de la fiction, qui est une fiction, et donc le caractère drôle, autoréférentiel était exhibé en couverture, et donc vous pouvez déjà mesurer dès la couverture à quel point c'est une promesse qui est faute et ce qui est fausse et qui, sous prétexte d'ironie, ne fonctionne pas. Évidemment, si vous aimez Rossi depuis Jim Klass, lisez comme un Shrail et faites comme moi, mettez-vous en chasse des autres albums d'Attila Futaki, pour vérifier que son talent a été un jour bien utilisé. Merci beaucoup pour cette nouvel épisode de Planche Case Zébule,
merci,
Christophe. Je te retrouve la semaine prochaine. Voilà.
Fidèle au poste.
Non, excuse-moi, je t'ai interrompu.
Fidèle au poste.
Fidèle au poste. Exactement. Et je pense que dans 2 semaines, nous essaierons de recevoir Yvon Bertorello qui nous parle de son travail de scénariste. On le fait régulièrement. On devrait essayer de le faire avec d'autres. J'ai proposé à d'autres éditeurs qui n'ont pas accepté. Je ne désespérera pas. On finira par avoir ici le gratin de la bande dessinée. Au revoir.